Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Mon Paris FM présente votre rendez-vous santé de la semaine. Mon Paris Santé.
Bonjour et bienvenue à tous dans Mon Paris Santé, l'émission qui parle de santé sans tabou. Aujourd'hui, on aborde un sujet important, les IST, les infections sexuellement transmissibles. Elles sont fréquentes et concernent beaucoup de jeunes. Depuis plusieurs années, le taux d'infection sexuellement transmissible augmente chez les moins de 25 ans. Méconnaissance des maladies, mauvaise compréhension des modes de transmission, faible utilisation du préservatif. Malgré la gratuité des dépistages et des préservatifs, la situation inquiète. Aujourd'hui, pour en parler, nous avons la chance d'accueillir le docteur Florence Sophie, médecin généraliste, spécialiste de santé publique et responsable du pôle santé sexuelle à la direction de la santé publique de la ville de Paris. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Alors docteur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Oui, je suis Sophie Florence, je suis médecin généraliste et médecin de santé publique, c'est-à-dire que je travaille à la fois dans la santé individuelle, les consultations en tête à tête, mais aussi dans la santé publique, la santé des populations avec une visée globale d'avoir envie de réduire par certains programmes ou projets des actions pour améliorer la santé au niveau collectif. Et ça fait 15 ans que je fais de la santé sexuelle. Et donc là, c'est un champ dans lequel on va s'occuper de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, mais aussi de la contraception, de l'accès à l'avortement, et puis de la prise en soin des violences et de l'ensemble des actions qui permettent à tous et à toutes d'avoir une sexualité satisfaisante et sans danger.
Est-ce que c'est un projet lié particulièrement à la ville de Paris ?
Alors, à la ville de Paris, j'ai la chance d'être dans une administration effectivement qui soutient ces dispositifs et qui a par exemple mis en place une stratégie parisienne de santé sexuelle avec différentes actions pour améliorer justement la santé sexuelle des populations. Et entre autres, elle gère 23 centres de santé sexuelle sur le territoire dans lesquels tout un chacun peut se rendre pour consulter.
Merci. Première question simple, qu'est-ce qu'une IST ?
Alors les IST, c'est des infections sexuellement transmissibles. C'est un terme assez nouveau qui a remplacé le terme de maladie sexuellement transmissible qu'on utilisait avant, justement parce qu'aujourd'hui, on a des moyens techniques qui permettent de dépister les infections avant qu'il y ait des symptômes. Donc on parle d'infection et pas de maladie quand il y a un symptôme, mais infection quand il n'y a pas de symptôme. Et donc pour savoir si on est porteur ou non d'une infection, la seule solution, c'est d'aller se faire dépister.
Donc si je comprends bien, pour les IST, ça peut se présenter sans symptômes ?
Exactement. Ça dépend des IST. Alors pour vous les citer, par exemple, je vais les citer du plus fréquent.
Dites-moi.
Au moins fréquent. J'aurais envie de vous demander à votre avis laquelle est la plus fréquente.
Le VIH ?
Eh bien non, justement, c'est la plus connue et celle qui a le plus de poids et celle qu'on cite toujours en premier. Mais en fait, la plus fréquente, c'est le papillomavirus. Après, il va y avoir des IST comme l'herpès, qui peuvent être assez fréquentes et qui ne vont pas toujours, la plupart du temps, pas donner de symptômes. Puis le chlamydia, le gonocoque, la syphilis et en dernier le VIH, qui finalement touche quand même, est la plus grave, puisque aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de traitement qui permette de guérir du VIH, d'empêcher. Enfin, si on a des traitements qui fonctionnent très bien pour empêcher l'évolution et permettre aux personnes qui découvrent leur séropositivité de vivre une vie normale, d'avoir la même espérance de vie que les personnes séronégatives. Mais en revanche, elles sont obligées de prendre un traitement pour l'instant à vie.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des symptômes quand même qui peuvent être repérables pour nous inciter à aller nous faire dépister ?
Alors, comme je vous l'ai dit, on peut être porteur sans symptômes, mais évidemment, dans quelques cas, il peut y avoir des symptômes. Ça va varier selon les infections. Moi, ce que je dis souvent, c'est que dès qu'il y a quelque chose de pas normal, il faut consulter. Donc quelque chose de pas normal, ça peut être une irritation, des brûlures en urinant, des pertes, des douleurs qui sont apparues comme ça. Donc ça, ça vaut le coup d'aller consulter. Et après, même sans symptômes, à partir du moment où on a une sexualité active, si on change de partenaire, j'ai envie de dire au moins une fois dans l'année, il faut faire un test au moins une fois par an. Et peut-être plus pour certaines populations très fortement exposées.
Et dans le cadre où est-ce qu'on a le même partenaire sur du long terme ?
Voilà, si on se met en couple, enfin en tout cas si on a un partenaire régulier, qu'on est exclusif, qu'on a fait le test à deux, et que voilà, chacun, et qu'on est dans une relation de confiance, il n'y a pas forcément besoin de refaire le test.
D'accord, donc il faut quand même bien connaître son corps pour essayer de détecter les petits changements qui pourraient nous inciter à aller consulter pour les personnes qui n'y vont pas, on va dire, spontanément.
Comme c'est ça, il faut être vigilant, mais il ne faut pas hésiter aussi à aller faire des dépistages, même quand on n'a pas de symptômes à partir du moment où on a été exposé.
Vous m'avez parlé tout à l'heure du VIH, la réponse que j'ai donnée, parce que donc c'est ce qu'on entend le plus fréquemment, mais donc ce n'est pas forcément l'IST la plus...
Non, heureusement, c'est aujourd'hui la moins fréquente. Malgré tout, on n'a pas de symptômes pendant longtemps, mais au bout d'un certain temps, tout le monde va évoluer vers une phase maladie qui peut être gravissime s'il n'y a pas de traitement.
D'accord. En 2023, il y a eu un constat de 17% au niveau des moins de 25 ans, contre 15% en 2021 par rapport au VIH qui était en hausse. Est-ce que vous avez une explication ?
Je n'ai pas compris.
C'est la hausse du VIH chez les plus jeunes.
Non, je ne l'avais pas comme ça. Après, il y a effectivement une diminution de l'usage du préservatif de manière générale dans la population. Fait aussi parce que, heureusement, aujourd'hui, on ne meurt plus du VIH. Donc, on a moins peur, donc on se protège moins. De toute façon, on sait qu'il est quand même important de continuer à les sensibiliser, les plus jeunes, parce que justement aujourd'hui, comme on a moins peur du VIH, il y a moins de programmes pour aller informer, pour aller inciter à mettre le préservatif. Et du coup, effectivement, il y a une baisse de l'usage du préservatif qui protège bien sûr contre le VIH, mais aussi contre les autres IST.
Nous, à ce niveau-là, nous avons interrogé plusieurs jeunes dans la rue à propos des IST en général, et on s'est rendu compte que beaucoup ne savaient pas trop ce que c'était, étaient incapables de répondre, de définir réellement ce que c'était une IST ou d'en donner des exemples. Je vous propose d'écouter les questions juste après une courte pause.
Avec plaisir. It's been too long and I'm lost without you. What am I gonna do? Said I've been needing you.
Said I'm needing you.
Wondering if you're the same. And who's been with you?
Is your heart still mine?
I wanna cry sometimes. I miss you.
Off to college. Yes, you went away. Straight from high school. You up and left me. We were close friends. Also lovers, did everything for one another. Now you're gone and I'm lost without you here now. But I know I gotta live and make it somehow. Come back to me, can you feel me?
Calling,
hear me,
calling
for you.
Cause it's been too long and I'm lost without you.
Yeah.
What am I gonna do? Said I've been needing you, wanting you. Wondering if you're the same and who's been with you.
Is your heart still mine?
I wanna cry sometime.
Now I'm sitting here
thinking about you. De retour sur Mon Paris Santé. Toujours avec le docteur Sophie. Rebonjour.
Bonjour.
Nous allons passer maintenant aux questions des jeunes que nous avons pu interroger dans la rue. Vous êtes prête ?
Tout à fait.
Question numéro 1.
C'est quoi le papillomavirus ?
Alors, le papillomavirus, c'est un virus très fréquent. Je l'ai cité tout à l'heure. C'est même l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente. C'est même normal dans une vie sexuelle de rencontrer du papillomavirus. C'est 80-90% de la population qui va rencontrer le papillomavirus. Fort heureusement, la plupart du temps, on n'a pas de symptômes et voilà, il ne va rien se passer du tout. Par contre, dans 10% des cas, on peut développer des symptômes, deux types de symptômes. Les moins graves, mais qui peuvent être quand même assez embêtantes, c'est des verrues génitales qu'on va avoir au niveau, donc, comme les verrues sur les mains, mais on va l'avoir au niveau génital, soit sur le pénis, sur l'anus, sur la vulve, donc pas très agréable et assez embêtant. Et dans l'autre partie, ça peut être plus grave, c'est une des premières causes de cancer, en particulier des cancers du col de l'utérus chez la femme, mais aussi des cancers de la sphère génitale chez la femme, chez l'homme, ou de la gorge. Et donc, fort heureusement, il existe aujourd'hui une solution pour se protéger contre le papillomavirus, qui est un vaccin, qui est un vaccin efficace. En 2 ou 3 injections, on est protégé à vie. Et donc, c'est un vaccin important et qui vient d'être recommandé à la fois pour les garçons et les filles jusqu'à 26 ans dans l'ensemble de la population.
Donc c'est une simple recommandation pour le moment.
Alors, j'entends votre question parce que jusqu'ici, jusqu'à 2018, la plupart des vaccins étaient des simples recommandations. À part les 3 premiers, diphtérie, tétanos, polio qu'on fait chez les bébés, il n'y avait pas de vaccin obligatoire en France. Puis en 2018, ça a changé. La plupart des vaccins qui étaient recommandés dans le calendrier vaccinal sont devenus des vaccins obligatoires. Effectivement, le papillomavirus n'est pas un vaccin obligatoire, mais est un vaccin recommandé. Néanmoins, l'ensemble de la population devrait se saisir de cette recommandation parce que c'est un vaccin très efficace qui protège considérablement. Et par exemple, des pays qui ont été bien plus proactifs sur la vaccination et sur les politiques vaccinales et qui ont des couvertures vaccinales extrêmement élevées de l'ordre de 80-90% des populations vaccinées ont réussi à considérablement faire chuter l'incidence du cancer du col de l'utérus et à quasiment ne plus avoir de diagnostic de cancer du col de l'utérus. Je pense à l'Australie. Et donc nous, malheureusement, on est plutôt entre 30 et 50% de couverture vaccinale selon les populations. Et donc il y a encore énormément de progrès à faire. Après, voilà, la question de recommander ou de rendre obligatoire la vaccination, moi, j'ai pas...
Justement, vous répondez un petit peu à la prochaine question qui est...
Par exemple, le papillomavirus, est-ce que c'est un projet de le rendre obligatoire, le vaccin, légalement parlant ?
Okay. C'est donc une bonne question. Effectivement, l'évolution de la stratégie vaccinale pour améliorer la couverture vaccinale contre le papillomavirus, elle est assez intéressante en France. C'est-à-dire qu'on a commencé par les femmes en se disant que si on vaccinait toutes les femmes, eh ben, on empêcherait la circulation globale avec bien sûr des vaccins aussi chez les hommes qui avaient des rapports sexuels avec des hommes. Et donc on a ciblé ces deux populations. Et donc, on n'a pas eu des très bons résultats. Donc là, on a élargi la recommandation de vaccination aux garçons et aux filles jusqu'à 26 ans inclus, donc quelle que soit l'orientation sexuelle. En revanche, effectivement, enfin, il y a des courants qui militent pour la rendre obligatoire. Moi, je suis plutôt pour faire de l'information, que les gens s'emparent de leur santé et que la vaccination soit recommandée ou obligatoire, en tout cas qu'ils puissent y avoir accès et se protéger, et du coup, protéger aussi la collectivité.
Pour les hommes et pour les femmes.
Hein. Oui.
Ce n'est pas qu'une question de...
Et jusqu'à 26 ans, même si aujourd'hui, y a un petit... enfin, la Sécu n'est pas encore tout à fait opérationnelle, je crois, pour rembourser. Pour l'instant, c'est que jusqu'à 19 ans. Là. Mais bon, je pense que si des gens vont à la pharmacie et qu'ils se font une demande, ils trouvent facilement à Paris pour se faire vacciner jusqu'à 26 ans inclus.
Et jusqu'à 26 ans, c'est gratuit ?
Normalement, oui. D'accord. 19 ans, c'est sûr. 26 ans, ça peut parfois un peu tiquer, mais ça ne va pas tarder à être généralisé à tout le monde.
Est-ce qu'il y a besoin d'une ordonnance médicale pour ce vaccin ou on peut se rendre à la pharmacie et demander
Non, ça fait partie des vaccins qui peuvent être faits directement par le pharmacien, effectivement. Donc ça, c'est super. Et la plupart des vaccins, d'ailleurs, peuvent être faits aussi. La mise à jour du calendrier vaccinal peut être faite chez le pharmacien. Il y a un rappel, par exemple, du diphtérie, tétanos, polio, coqueluche à 25 ans qui est hyper important. Et ça, j'invite tous les gens à aller se faire vacciner. Comme ça, ils passent à la pharmacie, on leur fait le vaccin. Et puis, alors, c'est bien de le noter dans leur carnet de vaccination quand même pour s'en souvenir. Mais,
C'est mieux de le faire.
Voilà.
C'est ça ?
Ouais, c'est
nous avons encore quelques questions de nos jeunes. Prochaine question ?
Une question, enfin, faut que je réfléchisse, mais je me dis que peut-être il faudrait essayer de populariser un peu la question vers les étrangers hors Europe, enfin Union européenne, parce qu'on n'a pas forcément la même connaissance, enfin on n'a pas la même approche par rapport à la sexualité que les Européens. Donc comment on pourrait éduquer les hors-Européens par rapport à la sexualité, par exemple.
Ok, carrément, merci. Super intéressant.
Merci.
Alors, question très intéressante et maladroite.
Alors, effectivement, c'est intéressant parce que je pense qu'on a tous des représentations sur la sexualité des uns et des autres, oui. qu'il est important de travailler et de faire le point. Après, nous, quand on fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans l'ensemble de nos missions, on a des actions hors les murs et on fait des séances qu'on appelle d'éducation vie affective, relationnelle et sexuelle, ou à la sexualité. Et dans ces actions, bien sûr, on discute avec... C'est quelque chose qui n'est pas très descendant, mais voilà, qui est plus de l'ordre de la discussion et qui va passer des informations. Et on aborde l'ensemble des sujets, quelles que soient les questions que se posent. Et donc, on va s'adapter et on va aller vers les populations vulnérables et les populations vers lesquelles on sait qu'il y a le plus de facteurs d'exposition. Ces populations, c'est effectivement les populations LGBT, les populations migrantes. Et donc, il n'est pas rare qu'on aille faire des actions dans des foyers, dans des associations pour discuter et puis apporter les différents points de vue.
Merci. On reviendra sur cette partie prévention, si vous voulez bien, tout à l'heure. On continue avec les questions des jeunes. Est-ce qu'on peut attraper une IST avec un seul partenaire ?
Alors... Oui, s'il a une IST et qu'il la transmet, oui, on peut attraper une IST en ayant un rapport sexuel partagé avec un partenaire.
Est-ce que la pilule protège des IST ?
Alors, la pilule au sens pilule contraceptive,
oui.
Non, elle ne protège pas des IST, elle protège uniquement des grossesses si elle est bien prise, y compris la contraception d'urgence qu'on peut prendre après un rapport sexuel pour se protéger contre une éventuelle grossesse. En revanche, il y a des pilules maintenant qui protègent parfois, pour les personnes très fortement exposées, qui protègent contre certaines IST comme le VIH. Voilà, qu'on peut parfois prescrire dans des situations très particulières. Enfin, je pense à la PrEP et à même certains antibiotiques qu'on va prescrire aussi suite à des rapports sexuels pour protéger les personnes.
Est-ce que vous pouvez expliquer la PrEP pour...
Oui, la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition au VIH. C'est un nouveau, ça a 10 ans. Hein. Donc ça, c'est un nouvel outil dans l'ensemble de ce qu'on appelle la prévention diversifiée et donc les différents outils qu'on a pour lutter contre le VIH, donc en premier, et les IST, mais bon, là, on est dans le VIH surtout. Bien sûr, le préservatif, le dépistage, mais on va aussi avoir les traitements. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les personnes qui vivent avec le VIH aujourd'hui, grâce au traitement, elles ne transmettent plus le virus. Donc ça, on appelle ça le traitement comme moyen de prévention. Et puis après, il y a les traitements pré-exposition ou post-exposition. Donc post-exposition, c'est si j'ai pris un risque qui, je pense, peut m'exposer au VIH, je peux aller le plus vite possible dans toutes les urgences en France pour prendre ce traitement. C'est une trithérapie à prendre pendant un mois qui va considérablement diminuer les risques. Et puis, de la même façon, pour les populations fortement exposées, elles peuvent prendre un traitement au long cours, un comprimé par jour, tous les jours, et du coup être protégées contre le VIH.
Merci. Et encore deux questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut attraper une IST par une fellation ?
Alors oui, on peut attraper des IST par... Alors bien sûr, la pénétration, d'ailleurs la pénétration buccale aussi, c'est la principale voie de transmission. Mais une IST, ça peut aussi se transmettre par les caresses, par la main qui va d'un sexe à l'autre. D'où l'importance de faire des dépistages réguliers, même si on met toujours des préservatifs.
Est-ce que les pratiques sexuelles ou le nombre de partenaires augmentent les risques d'infection, si on en a?
Oui, bien sûr, ça aussi, c'est un des leviers assez intéressants dans la discussion avec les usagers qui est à partir de... Donc, bien sûr, l'utilisation du préservatif, mais aussi discuter avec ses partenaires de quand date leur dernier test. Après, effectivement, il y a des pratiques qui vont plus transmettre. La pénétration, typiquement, va plus transmettre que les caresses sans pénétration. Mais, c'était quoi la question ?
C'était, est-ce que les pratiques sexuelles et le nombre de partenaires, un joue un rôle
Tout à fait. Donc, par exemple, si on a un vagin, recevoir une pénétration, c'est plus à risque que si. selon les pratiques, effectivement, il y a des pratiques plus ou moins à risque. Après, je pense que ce n'est pas forcément très important de savoir quel type de pratique est forcément la plus exposante, mais savoir qu'il n'y a quasiment pas de pratique sans risque, je dirais, qu'avoir une IST, finalement, ce n'est pas si grave, ça fait partie de la sexualité, mais c'est important de se dépister pour le savoir, pour se traiter. Et rappeler que ce n'est pas parce qu'on a une IST qu'on est sale, qu'on a une mauvaise vie ou que quoi que ce soit, enfin des représentations qu'on peut avoir sur les IST, le fameux tecline. Mmh. C'est normal en fait à partir du moment où on a une sexualité. Et pour rappeler, avoir une sexualité, ça permet souvent d'améliorer la qualité de vie. Enfin voilà, les gens qui ont une sexualité épanouie ont plutôt une meilleure qualité de vie que ceux qui ont une sexualité non épanouie. Donc voilà, c'est plutôt ça l'idée de...
Et dernière question, est-ce que les IST, c'est quelque chose qu'on garde à vie ?
Non, bien sûr, la plupart du temps, enfin... Hormis le VIH et encore pour l'instant, parce que moi je pense que heureusement, ça fait quand même 40 ans qu'on a découvert le virus du VIH. Et aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès hein, sur le traitement du VIH, même si malheureusement, ce que je disais, c'est qu'on n'a pas encore de traitement pour complètement guérir les personnes et qu'elles n'aient plus besoin de traitement. En revanche, pour les autres IST, la plupart du temps, on a un traitement qui est efficace et qui va complètement guérir les personnes. En revanche, malheureusement, ce n'est pas souvent des maladies immunisantes, donc elles pourront se recontaminer.
Très bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je vous propose une courte pause et on se revoit dans quelques instants pour parler de prévention.
Avec plaisir.
Je t'emmène avec moi la nuit, j'ai avec eux. Et viens, je t'emmène avec moi, la nuit j'ai avec que ça. Construire une villa à Kinshasa. Tu plies les mappes, les réinvestir là-bas. Construire une villa à Kinshasa. Les faits divers parisiens les plus sombres pour faire partie des plus grands de ce monde. Les faits divers parisiens les plus sombres pour faire partie des plus grands de ce monde. Et viens, je t'emmène avec moi là-bas. Aller-retour Paris-Kinshasa, je rentre ce soir. J'ai vu ski tous les villes, c'est aéroport de Njili. J'ai des mappes à coffret comme un guiri. 243, j'ai levé le drapeau. Zéro le couta, on n'est pas dans les ragots. Topi mili bata pour trouver les euros. Pour finir l'icolo tout en haut du tableau. Oh, viens, je t'emmène avec moi. 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 La nuit, j'ai rêvé que ça. Construire une villa à Kinshasa. Plier les mappes, aller réinvestir là-bas. Construire une villa à Kinshasa. Les faits divers parisiens les plus sombres pour faire partie des plus grands de ce monde. Les faits divers parisiens les plus sombres pour faire partie des plus grands de ce monde.
Viens, je t'amène avec moi, yeah. Viens, je t'amène avec moi chez nous. Balingi bayeba. Pourquoi banakini toujours frais? Les amis, faut beau laisser, 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 laisser. Bisotos à loin. Je vous fais découvrir Kinshasa Mboka Bangale. Linga la meilleure langue d'Afrique. Linga la meilleure langue du monde. Allez, la RDC. Je viens de Kinshasa Banda. Allez, la RDC. Je viens de Kinshasa Banda.
Et viens, je t'emmène avec moi. La nuit, j'ai rêvé que de ça. Construire une villa à Kinshasa. Tu plies les mappes, les réinvestir là-bas. Construire une villa à Kinshasa. Les faits divers parisiens les plus sombres pour faire partie des plus grands de ce monde. Les faits divers parisiens les plus sombres pour faire partie des plus grands de ce monde.
De retour sur Mon Paris Santé. Vous allez bien, docteur ?
Ça va, ouais.
Oui, toujours.
Merci.
Alors, dans cette dernière partie, on va parler prévention, si vous le voulez bien. Alors, je vais commencer par une question. Est-ce que le dépistage est gratuit ?
Alors oui, super bonne nouvelle. Non, non, vraiment, se faire dépister, c'est de plus en plus simple et de plus en plus accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis maintenant un an, on peut aller en laboratoire, dans n'importe quel laboratoire d'analyse médicale, pour faire un test de l'ensemble des IST, le VIH, mais aussi le chlamydia, le gonocoque, la syphilis et l'hépatite B, sans ordonnance. Et en revanche, et quel que soit l'âge, alors après, il y a une petite différence de financement. Si on a moins de 26 ans, c'est pris en charge à 100% par la Sécu. Si on a plus de 26 ans, c'est pris en charge à 65%. Et il faut soit avoir sa mutuelle, soit avoir, soit payer le reste à charge. Mais ça, c'est quand même considérablement facilité. Et après, pour ceux qui n'auraient pas de couverture sociale, par exemple, ben, il y a les centres de santé sexuelle et les CEGIT qui, pour le coup, ont un accueil inconditionnel et ne facturent pas les dépistages si besoin.
Donc, en parlant des centres, où est-ce qu'on peut se faire dépister en plus de...
Alors, dans les laboratoires d'analyse médicale, mais aussi effectivement dans les centres de santé sexuelle, où on peut aller aussi si on a des questions spécifiques justement par rapport à ça, et si on ne veut pas juste faire un bilan. Et là, je vous invite à aller sur ce paris.fr et rubrique santé sexuelle, avec la liste, il y en a entre 20 et 30 selon les structures. Mais voilà, ça s'appelle les centres de santé sexuelle ou les CEGID, et on peut avoir l'ensemble des informations dans ces centres.
Est-ce que les tests sont assez simples pour les personnes qui seraient un petit peu réticentes, qui ont un petit peu peur de...
Alors justement, bah, les personnes réticentes, je les invite à venir plutôt dans les centres de santé sexuelle où on a l'habitude d'avoir des populations un peu stressées. Et bah, le test classique, c'est une prise de sang qui permet de vérifier le VIH, les hépatites et la syphilis. Et puis, des prélèvements locaux. La plupart du temps, un test d'urine pour l'homme et puis un autoprélèvement vaginal pour les personnes à vagin. Et puis, si besoin, des tests au niveau de l'anus et dans la gorge en fonction des pratiques. Voilà. Après, on s'adapte complètement à ce que souhaitent les personnes. Pour celles qui auraient peur aussi des prises de sang, on a ce qu'on appelle des tests rapides d'orientation diagnostique. Et là, c'est une petite goutte de sang qu'on prend sur le doigt qui permettent de faire un diagnostic et donc avec sans la prise de sang. Donc c'est très pratique.
Wow, c'est beaucoup d'informations et ces informations-là, où est-ce qu'on peut les trouver ? Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a assez de prévention aujourd'hui, surtout à destination des jeunes, par rapport aux IST, par rapport au dépistage, par rapport à ces lieux, où est-ce qu'ils peuvent aller sans danger, tout en sécurité, où est-ce qu'ils peuvent discuter et poser leurs questions sans tabou, sans prise de risque ?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de fausses informations, il y a beaucoup de lieux, c'est difficile de faire le tri. Du côté site internet, il y a Santé publique France, il y a un site On s'exprime pour les jeunes jusqu'à 18 ans. Il y a le site questionsexualité.fr qui permet de donner pas mal d'informations. Et puis, il y a un site aussi SexoSafe pour les personnes, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, pour avoir des informations précises. Et il y a des numéros verts. Il y a le numéro de sexualité info santé et le numéro aussi du planning familial qui permettent de répondre aux questions par téléphone.
Tout à l'heure, nous avions une question des jeunes et la question qui est traitée sur la sensibilisation des IST aux destinations des personnes non européennes. J'aimerais bien rebondir dessus. Justement, est-ce que vous pensez que, là, notamment en France, on a assez de prévention ? Parce que c'est une idée qu'on a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on pense connaître ce que savent les autres, à quel point ils sont orientés ou non. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt lié à des stéréotypes, à des préjugés ? Parce que d'après les chiffres, d'après les questions qu'on a pu poser aux jeunes, peu avaient les réponses à nos questions et peu étaient informés. Donc, est-ce qu'on pense juste savoir ou on a un manque d'informations ?
Non, je pense que malheureusement, effectivement, la prévention, c'est le parent pauvre de la médecine en France. On a une médecine qui est très, très basée sur le curatif et qui, je pense, a plus de 95% des budgets, alors qu'avec 5% pour la prévention, alors qu'on sait qu'on est en plus très efficace. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, malgré tout, c'est du long terme. C'est-à-dire qu'un vaccin fait aujourd'hui, c'est un cancer évité dans 15 ans. Donc forcément, c'est plus difficile à faire passer parfois pour des actions politiques efficaces. Mais c'est regrettable, il manque vraiment d'actions préventives. Ça peut être les parcours éducatifs de santé qui, dès l'école, donneraient les premières actions pour bien prendre soin de sa santé en termes alimentaires. Bien sûr, après, pour l'éducation à la sexualité, mais on n'est certainement pas le moins, parce que la santé sexuelle, ça avec la lutte contre le VIH, avec les questions de contraception, avortement, on arrive quand même à avoir un peu de moyens, mais en tout cas, on pourrait beaucoup bien faire mieux, ouais, c'est sûr. Okay. Et puis, il y a aussi pas mal d'outils à concevoir, justement, de méthodes, de peut-être passer par des pairs. Enfin, avoir des référents dans les écoles. Il y a les étudiants relais santé à la fac, par exemple, qui peuvent être un premier relais, qu'on va souvent former, et puis faire des actions hors les murs avec eux. Mais on peut toujours s'améliorer. Puis on manque de moyens au quotidien pour assurer l'activité dans les centres et puis l'activité à l'extérieur pour justement aller vers les populations les plus vulnérables ou prioritaires.
Est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer ou qui est dans le projet EVARS?
Dans le programme, c'est ça? Oui. Dans la mise en place. Oui, tout à fait. Alors,
c'est quelque chose qui fait partie du programme?
Alors, le programme, pour l'instant, il est assez intéressant, mais il est en cours de mise en place par l'Éducation nationale, avec qui on travaille, j'allais dire au quotidien, mais en tout cas très régulièrement, ainsi que de nombreuses associations qui vont travailler. Donc c'est une très très bonne chose. Maintenant, ça fait depuis 2001 que la loi dit qu'il faut 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an et par année scolaire. De fait, il n'y a même pas 15% des établissements qui offrent ça, et encore, je pense que c'est encore moins. La mise en place du programme va permettre, on l'espère, et c'est la seule compétence transversale qui a un programme pour l'éducation nationale. Donc c'est quand même un signal assez fort de l'éducation nationale d'avoir mis en place ce programme. Maintenant, sur le terrain, il va falloir le faire. Il faut former les profs, il faut leur donner du temps pour pouvoir le faire correctement. Nous, bien sûr, centre ressources, on est tout à fait convaincus et on a très envie de travailler avec eux pour mettre en place ce programme pour que les jeunes soient mieux formés.
Et au niveau de la prévention, on parle donc beaucoup du préservatif comme prévention première. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que si les personnes se protègent tout le temps avec un préservatif, est-ce que c'est une raison pour ne pas aller se faire dépister, ou est-ce qu'il faut quand même se faire dépister au moins
Non, c'est très important d'aller se faire dépister en plus du préservatif, parce que justement, même avec le préservatif, ça ne protège pas tout, et la main qui va d'un sexe à l'autre peut quand même transmettre. Donc on n'est pas protégé à 100%. Alors, difficile de savoir, mais on est bien bien protégé. Mais de toute façon, c'est important exactement de faire le test régulièrement. Donc je dirais que vraiment, pour bien se protéger, c'est de combiner vaccination, préservatif au maximum, parce que c'est pareil, pas toujours facile, on n'en a pas toujours, et c'est pas très grave si un jour on met pas de préservatif, mais plus on en met, mieux on est protégé. Et puis dépistage, et je rajouterai bien sûr communication avec le ou les partenaires.
Et en parlant de communication avec le ou les partenaires, est-ce que c'est quelque chose que, est-ce que c'est des questions qu'on vous pose quand vous recevez les jeunes au centre de santé? C'est quelque chose qui peut être un frein pour certaines personnes de poser la question à leur partenaire ou de lui dire de mettre un préservatif. Est-ce qu'on vous demande des conseils par rapport à ça? Comment on discute avec son partenaire sans se brider, sans le brider, et surtout sans que la personne se sente insultée, on va dire?
Oui, tout à fait. C'est des sujets qu'on aborde très, très, très fréquemment. Déjà parce que parfois, on dépiste des IST, des tests positifs, et du coup, il va falloir en parler avec le ou les partenaires. Et puis, de manière générale, voilà, on peut être amené à parler de sujets avec des partenaires réguliers, des partenaires occasionnels. On a d'ailleurs des professionnels dans les centres de santé sexuelle qui s'appellent, donc ils ont un nom un peu old school, conseiller conjugal et familial. Donc, moi, je préfère les appeler conseillers tout court. Conseiller au sens, pas donner des conseils, mais au sens tenir conseil. C'est-à-dire vraiment leur fonction, c'est de permettre à l'autre de trouver les réponses à ses questions. Et d'accord. On peut vraiment aller voir ces professionnels. Bah, je ne sais pas, moi, quand on, justement, enfin, on est en couple, mais on ne sait pas trop, on n'arrive pas à sortir de cette relation. Il y a des signes qui montrent que cette relation est un peu toxique, mais d'un autre côté, c'est difficile de ne pas y retourner. Enfin, pour quel que soit le motif, c'est vraiment des professionnels très intéressants. Et donc, il n'est pas rare qu'on oriente les personnes qui auraient des difficultés à communiquer avec leur partenaire vers ces professionnels pour approfondir le sujet. Mais c'est vrai que les problèmes de communication, c'est très, très fréquent, malheureusement, et pourtant primordial dans une relation de confiance.
Oui, ça revient au sujet de la prévention et de la formation, parce que c'est quelque chose de mal vu, c'est considéré comme une insulte. Donc, dire à son partenaire, écoute, je veux aller faire un dépistage avant que nos relations commencent, c'est un peu...
C'est ça, c'est comme un manque de confiance, alors que pas du tout, au contraire. C'est plutôt être responsable de s'occuper de sa santé sexuelle et de celle de son partenaire.
Merci. Est-ce que vous auriez, avant la fin de notre émission, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations nécessaires pour aller se faire dépister gratuitement, si possible?
Je pense que l'annuaire de SIDA Info Service, si on tape sur Internet SIDA Info Service, on peut avoir accès à un chat si on a des questions spécifiques. Il y a le numéro de SIDA Info Service ou de Sexualité Info Santé vers qui on peut se tourner. Et il y a l'annuaire de tous les Cégides et de tous les centres de santé sexuelle en ligne.
Qui sont ouverts pour les filles et les garçons.
Ah oui, pour les filles et les garçons. Et plus. Et on peut aussi trouver, bien sûr, les infos dans l'ensemble des centres de santé sexuelle de la ville de Paris. Même dans les autres régions, il y a des centres de santé sexuelle un peu partout en France.
Est-ce qu'il existe un programme où on peut aller se faire dépister ou au moins en discuter anonymement, si je peux dire?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Faites bien de poser la question. Dans les centres de santé sexuelle et les centres de dépistage, c'est-à-dire l'acronyme, c'est CEGID hein, aujourd'hui, Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des IST, on peut être reçu de façon anonyme. Donc, voilà.
Donc, ça peut être plus rassurant pour certaines personnes, les plus jeunes ou les plus grands. Donc, avant de finir cette émission sur les IST, est-ce que vous auriez trois messages essentiels que vous souhaitez laisser aux jeunes?
Alors, les messages essentiels en santé sexuelle, c'est effectivement c'est être responsable de s'occuper de sa santé sexuelle. Pour ça, il y a plein d'outils les principaux, ça va être la capote, la vaccination et le dépistage, et puis la communication avec son ou ses partenaires régulières pour savoir où on en est par rapport aux IST.
Merci beaucoup docteur, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Donc, je vous remercie tous et on se retrouve pour une prochaine émission pour un nouveau thème sur Mon Paris Santé. Et surtout, n'oubliez pas de vous protéger et de vous dépister. Mon Paris FM.